Cours de philosophie critique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 21 mai 1993.
Continuer la critique du raisonnement. Il faut bien comprendre qu'on est dans l'intentionnalité, dans le vécu de l'intelligence. Le raisonnement est œuvre de l'intelligence. Se fait avec un mode abstrait. D'où naît l'universel. L'universel, c'est un être de raison et c'est une relation de raison. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, parce que tout repose là-dessus pour le raisonnement. Saint Thomas dit, à la suite d'Aristote du reste, que l'universel, c'est l'un vers le multiple. C'est la relation de l'un et du multiple. Vous voyez, c'est très intéressant de voir ça. C'est ça l'universel. Unum in multis. Alors Saint Thomas s'amuse. De temps en temps, il s'amuse. Saint Thomas, il le joue. Voilà, il dit Unum. In multis, ex multis. Donc, c'est l'un dans le multiple. extrait. L'universel provient du multiple. Il provient du multiple. Il sort du multiple. Il est vers le multiple. Il est dans le multiple. Donc, ex ad in. Bon, une fois que vous retenez ça, c'est facile à retenir. Hein. Vous voyez toutes les relations de cette relation. Relation de raison, parce que l'universel n'existe que dans ma connaissance. Vous n'avez jamais vu l'universel, ce spectre. Vous l'avez jamais rencontré. Mais vous le portez dans votre intelligence dès que vous connaissez. Dès qu'il y a acte d'intelligence, il y a l'universel. L'universel, c'est ma manière particulière de connaître. C'est mon pose. C'est le pose de mon intelligence. L'intelligence connaît selon un mode universel. Et saint Thomas critique le néoplatonisme de cette manière qu'ils n'ont pas distingué nettement la manière de connaître et le contenu de la connaissance. Donc, qu'ils n'ont pas fait la distinction entre philosophie et psychologie. Très très curieux, et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'une fois qu'on a compris cette critique que saint Thomas fait du néoplatonisme, on ne peut pas dire que saint Thomas est néoplatonicien. Je mettrai le doigt dans l'œil, vous voyez, ce qu'il fait là, il fait là l'erreur, il montre que c'est l'erreur du platonisme de confondre la manière d'exister, le pose, et le diesti, ce qu'on connaît. La spécification et la manière de connaître. Ça, il faut le comprendre. Une fois qu'on a compris ça, on ne tombe plus dans le néoplatonisme. C'est une critique très sévère et très forte. Et c'est la même critique que je peux faire à Heidegger. C'est là où on voit que Heidegger demeure dans le néoplatonisme. Puisque il dit que l'étant que je connais dans ma connaissance scientifique ne me donne rien de l'être. Ça prouve qu'il confond ma manière de connaître et ce qui est connu. Donc, l'universel va impliquer deux aspects. Et jeter du lest pour embrasser le plus de personnes possible. C'est pour ça que Heidegger considère que l'universel, c'est embrasser. C'est l'intelligence qui embrasse. Et la c'est un serment sur l'œcuménisme. C'est, regardons les religions monothéistes. Les trois grandes religions monothéistes. Et faisons le grand accueil des trois religions monothéistes. Alors, trois religions monothéistes. Les juifs, les chrétiens, les musulmans. Alors, après ça, c'est très vrai, il y a le dénominateur commun. L'extension des dénominateurs communs. Mais plus l'extension est grande, plus les dénominateurs communs est faible. La compréhension. Alors, après, on mettait... Ah, c'est très intéressant de regarder ces trois religions. L'une, c'est la foi. L'autre, c'est l'espérance. L'autre, c'est la charité. Alors, on avait... Textuellement, ça m'a été répété comme ça, je n'ai pas assisté au sermon. Ou à la conférence, mais c'est pour vous montrer que, attention, hein. Alors, la foi, les musulmans, l'espérance, les juifs, la charité, les chrétiens. Est-ce que vous acceptez ce genre de communisme? C'est comme, je me souviens, c'était stop, on était pris par un gros chauffeur de camion alsacien. Il est merveilleux, le nouveau pape, c'est Jean III. Il va faire l'unité des trois religions. On se dispute tout le temps en Alsace, les juifs, les chrétiens, les catholiques, les protestants. Il va faire une unité, une seule religion pour les trois. Et là, on était convaincus. Intéressant de voir comment l'universel, l'être de raison, c'est un être de raison, l'universel, extension, compréhension, ça c'est le genre. Si vous prenez l'espèce, le genre animal, pour que vous ayez un contenu, l'animal, très étendu animal, vous pouvez mettre vivant, encore plus étendu. Et la compréhension est de plus en plus faible. Et déjà animal, vous étiez tous dans le même genre, la petite araignée et l'éléphant. Il faut que l'éléphant maigrisse pour être araignée. Vous comprenez comment l'extension va faire diminuer la compréhension? Combien d'araignées dans le ventre de l'éléphant? Mais c'est très curieux. Et l'intelligence est comme ça, mon intelligence qui est abstrait. Elle jette du lest pour comprendre le plus. Puisque plus vous jetez, moins il y a le contenu, et plus c'est vaste. Tandis que l'espèce, ah, l'espèce homme. Vous pouvez y mettre araignée aussi. Mais l'araignée, je ne connais pas très bien ce que c'est. Je ne suis pas dedans. Il n'y a qu'une espèce animale que je connais bien, c'est la mienne. C'est la plus parfaite du reste, puisque c'est la mienne. Non, c'est l'homme. Ça, je connais. Là, je suis à l'aise, l'homme. Tandis que araignée. Est-ce que vous connaissez l'espèce araignée? Vous connaissez le genre, et puis vous connaissez la propriété, ou la propriété, même pas, la figure, oui, quelques caractéristiques, pas la vraie propriété. Ah, vous essayez de vous approcher, et vous classez en fonction du genre et des propriétés. Un animal qui a quatre pattes, il y a un animal qui pique, et ainsi de suite. Hein. Deux estomacs, ou un estomac, deux yeux, deux jambes, comme ça. Vous vous approchez, et vous essayez de trouver la propriété, et vous la connaissez jamais parfaitement. Mais vous approchez, et puis quand vous connaissez très mal, vous connaissez que les accidents. Toujours les cinq prédicats qui sont les cinq modes de l'universel. L'intelligence se structure comme ça. Alors, l'espèce, extension, c'est beaucoup plus qualitatif. Alors vous avez tout de suite deux manières de connaître. Il y a une manière de développement de l'intelligence qui se fait par l'extension. Il y a des champs, il y a des types d'intelligence où l'aspect de l'extension est très développé. Et puis il y a des intelligences qui sont beaucoup plus qualitatives, où l'aspect de la différence spécifique est très développé. Et quand vous les mettez ensemble, ils ne s'entendent jamais. Il y a des gens qui sont pour la quantité, il y a des gens qui sont pour la qualité. Aimez-vous mieux avoir beaucoup de vin, de la piquette, ou avoir un bon vin? Il y en a qui aiment mieux la piquette parce qu'ils en ont beaucoup. C'est la quantité. Le genre se prend toujours du côté de la quantité. Saint Thomas dira ex parte. Matériel. Donc le genre se prend du côté de la matière et par le fait même du côté de la quantité. C'est pour ça que l'extension est si forte et la compréhension beaucoup moins. Tandis qu'au contraire, l'espèce se prend ex parte formée. Du côté de la forme, la détermination. Parce que c'est la différence spécifique. La différence spécifique. Venant déterminer le genre me donne l'espèce. C'est qualitatif. Mon intelligence saisit la réalité par le genre, par la matière, et saisit la réalité par la détermination. Alors, ça dépend des types d'intelligence. C'est là la variété. Et ça dépend de la première éducation. Ça, c'est sûr. Ça dépend de la première éducation. Ça dépend de nos expériences. Et nos expériences sont variées dans la première éducation. On n'a pas choisi. Hein. On n'a pas choisi de naître dans tel ou tel lieu. Dans l'Inde. Ou en Afrique. Ou à Paris. Mexico. Et ça reste, vous voyez, au fond, la culture dépend de la manière dont on va organiser les cinq prédicables. Fondamentalement, c'est le vécu de l'intelligence. C'est mon premier patrimoine. C'est ça. Donc, revenez toujours aux cinq prédicables en critique. C'est capital, ça. Voir comment mon intelligence saisit la réalité en l'abstrayant. Et on comprend très bien, puisque l'intelligence abstrait, elle a différents regards sur la réalité. Et il y a cinq regards différents qui sont des regards tout à fait premiers. Puisque l'universel implique compréhension et extension, je peux comprendre les raisonnements. Je peux comprendre d'abord la composition. La composition du jugement. Pierre est intelligent. Pierre, sujet, est pris d'une façon concrète. Et je viens le qualifier de cette manière particulière en disant il est intelligent. Tandis que quand je dis Pierre est un homme, je regarde dans Pierre quelque chose de fondamental et de premier. Vous voyez, je compose. Et puis je peux nier, je peux diviser. Pierre n'est pas intelligent. Alors, avec miséricorde, on dira, il n'est pas intelligent. Certains jours, restreint. L'intelligence qui peut préciser. Il y a des gens, des hommes, qui aiment les jugements catégoriques, qui n'aiment pas ces restrictions. On voit très bien ça, la manière dont on saisit la réalité. Et parce que l'espèce implique une extension et une compréhension, je peux préciser, diminuer l'extension et augmenter la compréhension par des précisions successives. Et je peux, à partir de cette compréhension, extraire certains attributs, certaines propriétés. Tout l'art du raisonnement, c'est d'essayer d'extraire d'un universel tout ce qu'il contient. C'est ça qui est très curieux. Alors, il y a deux manières d'extraire en ayant un nouveau contact avec la réalité ou tout simplement en gérant mon capital. Découvrir quelque chose de nouveau, l'induction. Gérer mon capital, déduction. Et ceci provient du fait qu'il y a extension, compréhension. C'est l'universel qui me fait comprendre le raisonnement. Si ma connaissance n'avait pas ce mode universel, il n'y aurait pas de raisonnement. Il n'y a pas de raisonnement en Dieu. Il n'y a qu'une contemplation. Le raisonnement, c'est le devenir du faible, du petit, de l'imparfait. Je raisonne parce que j'ai à acquérir, à actuer. Ce que je connais d'une façon imparfaite, d'une façon trop générique. Alors, je dois raisonner. Le raisonnement, c'est la démarche d'une intelligence très imparfaite, très faible. Si mon intelligence était plus intuitive, si mon intelligence était plus qualitative, je raisonnerai beaucoup moins. Je saisirai la réalité telle qu'elle est. Je n'aurai pas besoin de raisonner. C'est parce qu'il y a abstraction et qu'il y a diverses modalités de l'universel que je dois raisonner. Ça, c'est pour expliquer pourquoi il y a raisonnement. Comment se fait-il que ce qui caractérise l'intelligence de l'homme, c'est une intelligence qui raisonne? Ce n'est pas le jugement qui est le caractère propre de mon intelligence. Le jugement, c'est pour montrer que mon intelligence, malgré sa faiblesse, elle est quand même intelligente. Donc c'est pour découvrir le caractère de l'intelligence comme tel que je parle du jugement. Tandis que pour découvrir le caractère de faiblesse, d'imperfection de mon intelligence, c'est le raisonnement. Le raisonnement va creuser dans la réalité ce qui ne m'est pas donné directement. Par le raisonnement, je passe du visible à l'invisible. Alors, on va voir maintenant, après vous avoir rappelé ça, parce que c'est indispensable. On va saisir ces deux grandes modalités du raisonnement. Induction. Déduction. brutale. L'induction, voie inventive. Je découvre de nouveaux pays. Je découvre de nouvelles données que je n'avais pas découvertes avant. Alors, vous voyez, il y a des esprits inventifs. Il y a des esprits capitalistes. Il y aura toujours ça. Alors, vous pouvez dire, la droite et la gauche de mon intelligence, hein, vous voyez, en grossissant un peu, ce qui exploite son capital, il déduit. Et la déduction conduit aux conclusions. Et les conclusions, c'est sacro-saint. Parce que c'est le fruit de mon capital. La déduction provient toujours de deux principes. Tandis que l'induction, c'est la découverte. Je découvre quoi ? Je découvre les principes. Les principes propres. Ou des principes universels. Alors, essayons de comprendre ce que représente l'induction. Vous l'avez déjà vu en exercice, en philosophie, quand vous induisez l'âme. Vous ne déduisez pas l'âme. L'âme n'est pas une conclusion. Dieu n'est pas une conclusion. La conclusion est toujours quelque chose de second. Relatif. Toute conclusion est quelque chose de relatif. Tandis que je découvre un nouveau pays en découvrant des principes que je n'avais pas encore découverts. C'est l'invisible. Donc je passe du visible, l'expérience. Ceci est vrai de toute pensée philosophique. Toute pensée philosophique passe du visible à l'invisible. Tout le temps. Le dernier livre de Merleau-Ponty, livre posthume, qui était en train d'écrire, c'est du visible à l'invisible. Qui est visible. Le rationalisme. Le rationalisme, c'est du visible au visible. L'antérieur et le postérieur. Connaissance. Où je montre seulement, je manifeste, je décris. Je décris le visible. Je ne peux pas décrire l'invisible. L'invisible est du domaine de la signification. Le domaine du visible est du domaine de la représentation. Je le dis exprès pour que petit à petit vous arriviez à bien saisir ça. Tellement important. Je me représente quelque chose, c'est le visible. Alors, il y a deux visibles. Il y a le visible intérieur. Expériences intérieures. Je pense au chat, le minet. Je me représente. Un petit minet de l'Inde. C'est merveilleux. Un persan. Et puis le gros minet, le chat des gouttières de Paris. C'est pas tout à fait la même chose. Je me représente tout de suite. Puis, il y a plus que ça. Il y a la signification. Qu'est-ce que c'est que chat ? L'acuité. L'acuité, signification. La représentation, l'image. Alors, il faut comprendre ce premier mouvement de l'intelligence, qui est l'induction, qui est le mouvement fondamental de ma vie intellectuelle. Et l'induction exprime l'appétit de l'intelligence de creuser, de pénétrer in tous les gérés, lire de l'intérieur. C'est l'appétit fondamental de l'intelligence. L'intelligence vivante aime d'induire. Une intelligence qui n'a plus beaucoup de vitalité n'induit plus. Elle décrit. Et le signe de la fatigue d'une culture, c'est de ne plus induire. Et c'est uniquement de rester au niveau descriptif. Et c'est vrai que notre culture est une culture fatiguée. Et c'est pour ça qu'elle n'induit plus beaucoup. Elle ne fait que décrire. On aime de voir des caricatures. Ça fait vendre le journal. Un journal sérieux n'aurait aucune caricature, aucune réclame, aucune photo, uniquement des articles. C'est pas la même chose que de décrire et de représenter. L'intelligence, dans son dynamisme propre, cherche à pénétrer dans la réalité. Pourquoi l'intelligence a-t-elle cet appétit? In tous les durées, elle veut lire de l'intérieur. Pourquoi? Parce que je cherche la signification des choses. C'est ça que cherche l'intelligence. La signification. Et je cherche la signification des choses en essayant d'aller toujours plus loin. Première induction, l'induction la plus simple, c'est l'induction blanc, blancheur. C'est l'induction première, je crois, historiquement. Et l'induction première pour chacun d'entre nous. Vous l'avez dans le Parménide, déjà chez Platon. Platon n'est pas un génie inductif, c'est un génie descriptif. Parce que c'est plus un artiste qu'un philosophe. C'est un grand artiste, Platon. Alors là, beaucoup plus artiste qu'Aristote. Parce que chacun de ces dialogues est un monument. Ça, c'est vrai, chacun de ces dialogues. C'est un artiste de la pensée, mais c'est un artiste. Et vous voyez que chacun des dialogues représente un artiste, architecte. C'est l'architecte de la pensée, Platon. Il essaie de construire tout un édifice autour de telle chose qu'il recherche. La piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? Qu'est-ce que c'est que la cité? La république. Qu'est-ce que c'est que l'être? Il essaie d'écrire pour chaque sujet qui l'intéresse. Il part d'un sujet qui l'intéresse, vous voyez. Par une définition. Et laisser autour de là de comprendre. Eh bien, pour Platon, il faut regarder cette première démarche inductive. Vous passez de blanc concret à blanc abstrait. Là, vous comprenez que l'âme de l'abstraction traduira dans une induction. blanc à blancheur. Blancheur, c'est la forme en soi. Ah oui, bien, la forme en soi, c'est tout à fait Platon. Blanc, oui, le blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Alors c'est le ce par quoi. Ce par quoi, c'est la première manière d'analyser. J'analyse dans ce qu'est blanc, ce par quoi le blanc est blanc. Et je saisis la forme en soi, ce par quoi le blanc est blanc. Donc je saisis la blancheur. Qu'est-ce que c'est que la blancheur ? C'est ce par quoi le blanc est blanc. Le blanc, j'en ai l'expérience. Le blanc du mur. Le blanc existe dans le mur. Et je saisis ce qui constitue le blanc. Donc la forme en soi. C'est très simple, mais c'est très intéressant de voir ce procédé inductif dans ce qu'il a de tout à fait élémentaire. Alors, essayons d'étudier cette induction élémentaire, le passage de blanc à blancheur. Après, on verra l'induction beaucoup plus parfaite, une induction complexe, analogique, le passage de l'être en puissance à l'être en acte. Je crois que là, on saisit les deux extrêmes de d'une pensée inductive. Blanc, blancheur. Le passage de ce qui est en puissance à ce qui est en acte. Entre deux, on verra ce qui peut se passer. Et regardons ces deux extrêmes pour saisir ce que c'est que cette démarche inductive. Saisissez la détermination. Vous voyez, dans toute induction, il y a une orientation. Et quand je dis orientation, il y a un désir de saisir quelque chose en profondeur. S'il n'y a pas cette interrogation, il n'y a pas de recherche. La recherche, c'est l'induction. Quand vous faites un petit travail, que vous cherchez, au fond, votre travail sera une induction. Vous commencerez par les faits. Vous verrez qu'il y a des faits qui semblent contradictoires, apparemment. Et quand vous mettez alors un peu d'or dans votre travail, vous mettez exprès les deux faits les plus contradictoires, les plus opposés l'un en face de l'autre. Et comment ça se fait qu'on retrouve ces deux réalités si opposées, alors qu'elles sembleraient s'unir dans quelque chose? Vous cherchez ce qu'il y a, ce qui unit et ce qui diversifie. Tout de suite. Dans toute démarche inductive, c'est ce que vous faites. C'est ce qui unit et ce qui s'oppose. Et en saisissant ce qui unit, vous saisissez ce qu'il y a de commun. Et en saisissant ce qu'il y a de commun, vous saisissez ce par quoi telle réalité est. Et vous saisissez la diversité en voyant comment ce qu'il y a de commun existe dans telle ou telle matière. C'est donc la distinction entre matière et forme. Fond d'induction. En premier lieu, blanc du mur, la blancheur. Ce par quoi ce par quoi blanc et blanc, c'est la saisie d'un principe. Et d'un principe qui est une forme. C'est pas un principe réel, c'est un principe qui qualifie. Donc, la première forme d'induction, c'est de saisir les qualités. Et de les saisir comme qualité, comme ce qui détermine. C'est une forme très horizontale de connaissance, mais c'est quand même la première forme de connaissance. Une fois que vous saisissez toutes ces qualités, vous essayez de les ordonner en fonction de ce qui les qualifie. Où se trouve réalisé de la façon la plus parfaite le blanc. Et c'est vrai. C'est ça qui intéresse l'intelligence humaine, de pouvoir comparer le blanc du mur, le blanc de telle qualité, de telle espèce, de telle réalité. Alors là, vous la saisissez d'une façon existentielle. Tandis qu'au contraire, quand vous saisissez le blanc en soi, ça n'existe pas. Heurter devant quelque chose qui est au-delà de toutes les réalisations et qui ne peut être que pensée. Et vous voyez donc, à ce moment-là, ce qu'il y a de tout à fait particulier dans la connaissance, c'est que je peux me retrancher du réel, m'abstraire et contempler une forme qui n'existe pas. Vous contemplez la forme en soi. Vous saisissez la forme en soi. Et comme c'est très curieux, hein, alors voyez comme l'induction me fait saisir l'appétit de l'intelligence. Une intelligence qui cherche quel est le bien de l'intelligence. C'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je sens. L'appétit de l'intelligence, c'est la saisie de la forme. C'est la première chose que l'intelligence saisit. C'est l'appétit de la forme. La forme en soi. Alors vous voyez là tout de suite, vous voyez combien le platonisme, combien Platon est proche du désir de l'intelligence. Les formes en soi, le bien en soi. Et combien c'est dangereux, parce qu'une fois que j'ai le bien en soi, je ne cherche plus rien. Et je risque toujours alors de rester devant un esthétisme. Puisque je distingue la matière de la forme et puis je ne dépasse pas ce point de vue formel. Donc ça, première démarche de l'intelligence de l'induction. Alors, maintenant qu'on a vu cette démarche, essayons de comprendre à partir de blanc-blancheur les différents éléments qui sont dans cette induction, qui sont dans cette démarche. Blanc, c'est concret, c'est le blanc du mur. Donc, il y a là un sujet et une qualité. Donc, il y a deux éléments. J'abandonne un élément pour me fixer sur un seul, la qualité en soi, blancheur. Mon intelligence sépare le mur du blanc pour ne saisir que le blanc en soi. J'abandonne l'existence